les rêves, les projets que le Seigneur a mis sur nos cœurs, sur le mien aussi en l'occurrence aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Julien, on peut se tutoyer, hein, comme vous dites, on est frères et sœurs en Christ, on appartient à la même famille. Je suis l'heureux époux de Jennifer Bloch, fille de Dorothée, pour ceux qui peut-être connaissent. Hein. J'aime bien citer la généalogie un petit peu, parce que c'est vrai que dans la parole de Dieu, souvent on disait telle personne, fils d'eux, etc. Mais voilà, moi je suis le fils de Marie-Noël et Jean-Marie, l'heureux mari de Jennifer et aussi l'heureux papa de 5 enfants. 5 enfants, alors j'insiste sur le mot 5, non pas que je veux vous faire une multiplication de la table de 5, mais en tout cas vous montrer que le Dieu dans lequel nous croyons, c'est le Dieu de l'impossible. Ma femme était stérile et nous avons eu 5 enfants parce que Dieu a restauré, Dieu a guéri et il a permis que nous puissions avoir 4 fils. Et la cerise sur le gâteau, pour terminer, une petite fille. Hein, bon, Zacharie, Néhémie, Esaïe, Jérémie. Rassurez-vous, je n'ai pas fait tous les prophètes. Hein, et on a fini avec Anaël. Et donc, c'est une joie de pouvoir dire que nous croyons en ce Dieu des miracles. Parce que moi, effectivement, j'ai côtoyé ce miracle. Je peux vous dire que c'était de l'ordre de l'impossible. Et pourtant, Dieu va au-delà de tout ça. Je suis le papa, effectivement, de ces 5 enfants. Je suis aussi le fondateur, enfin un des fondateurs de l'école protestante Les Papillons à Manage, hein, une école qui a ouvert ses portes il y a bientôt 4 ans maintenant. On entame la 4e année et aussi le fondateur, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, d'une association un peu particulière, un peu bizarre, hein, mais je crois qu'on est entre gens bizarres apparemment, voilà, qui s'appelle l'ASBL Un Temps pour Aimer. Donc voilà, moi en tout cas, ce terme Un Temps pour Aimer, je trouvais que ça collait vraiment bien à ce que nous devons être quelque part en tant qu'enfants de Dieu. Et le thème du message d'aujourd'hui, ben, ira vraiment en ce sens. Je ne sais pas si on peut voir la première dia ou pas. Ça passe, si ça ne passe pas, ah voilà. Donc le thème que je voulais aborder avec vous ce matin, c'était un serviteur, un berger qui aime et qui répond aux besoins de ce monde avec une dimension écrite en grande majuscule d'amour à toute épreuve et en toutes circonstances. Le « à toute épreuve et en toutes circonstances » mais ne sont pas là par hasard. Parce que c'est facile d'aimer quand tout va bien. Mais quand on vit des moments difficiles, quand on côtoie des moments compliqués, c'est vrai que faire preuve d'amour n'est pas toujours quelque chose d'évident. Et pourtant, nous sommes appelés à représenter Christ sur cette terre et donc, en l'occurrence, faire preuve de compassion. C'est un mot qui est revenu régulièrement ce matin. Même là où parfois ça semble compliqué, lui Jésus, il l'a fait pour nous. Donc à plus forte raison, nous sommes appelés aussi à le vivre et à le faire pour les autres. Et c'est vrai que moi depuis un sacré bout de temps, je suis assez interpellé par la tournure des événements qui nous entourent. Alors, c'est vrai, bon, c'est peut-être un défaut professionnel, hein, je suis enseignant, mais c'est vrai que allumer la télévision, regarder les infos, se promener en ville, dans Jumet, parce que je suis jumetois aussi, regarder ce qui se passe dans mon quartier, aller à la rencontre de mon prochain, qu'il soit dans la dépression ou dans la colère ou plein d'autres choses. C'est vrai que moi, je me rends compte d'une chose qui est vraiment cruciale, c'est que le monde dans lequel on vit, il a cruellement besoin d'amour, mais vraiment, il y a un besoin incroyable d'amour. Et quand je parle d'amour, moi je parle vraiment de ça avec un cœur passionné et sincère, même dans l'éducation. Je vous ai dit, je suis directeur, mais dans l'éducation, le A est le mot qui est au centre du mot. Donc on ne peut pas éduquer sans aimer. Hein. L'amour est au cœur de l'éducation, l'amour doit être au cœur de notre société. Et petite dia suivante, il y a une citation d'un philosophe français qui s'appelle Blaise Pascal, au XVIIe siècle, qui a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui a été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Alors, ce manque qui est dans le cœur de l'homme, mais nous, en tant qu'êtres humains, dans notre nature humaine, on a essayé de le combler de mille et une façons différentes. Mais permettez-moi de vous dire ce matin que si ce n'est pas Jésus qui comble ce manque, ça ne peut pas fonctionner convenablement, car Jésus est le seul qui est capable de nous faire du bien, qui est capable de répondre à chacun de nos besoins dans une diversité de contextes aussi. Jésus, c'est la clé, parce que nous devons sans cesse nous rappeler que notre vie, elle englobe de multiples aspects, intellectuels, physiques, affectifs, matériels, financier, aujourd'hui encore plus, avec le coût de la vie qui est là, qui augmente, mais il y a aussi des enjeux, des besoins qui sont spirituels. Et pour chaque aspect, Dieu a prévu dans son amour extraordinaire, et s'il y avait un mot plus grand qu'extraordinaire, on l'utilisera pas à ce moment-là, mais il a des bénédictions pour ceux qui le suivent et qui veulent marcher avec lui. Et ici, il y a quelques petits versets qui suivent, qui vont vraiment dans ce sens, regardez le premier, et qui montre aussi quelque part que Dieu répond à chacun de nos besoins. Dans Philippiens 4, 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Quels sont les besoins que nous avons ? La parole, qui est une promesse vivante, dit qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Je vous ai dit que j'avais fondé une école avec une équipe de gens aussi bizarres que moi. Et cette école-là, je peux vous dire que si ce n'est pas de Dieu, c'est... Alors, il ne fallait pas l'ouvrir. Mais Dieu a pourvu. On n'avait pas de bâtiment. En Afrique, on fait peut-être des écoles encore dans des tentes, etc. Mais en Belgique, faire une école dans une tente, c'est compliqué. Parce qu'il y a toutes les normes, les mesures, les pompiers qui doivent passer, la sécurité qui est quand même mise en évidence. C'était pas simple du tout. L'école, on l'a appelée l'école des papillons. Et voilà qu'un jour, moi, je me présente dans une ancienne école catholique qui était fermée depuis près de 17 ans. Et qu'est-ce que je vois sur les fenêtres des anciennes classes de l'école maternelle? Plein de papillons. Oh, je dis, oh, quand même, est-ce que ce serait un clin d'œil du Seigneur? Et puis, on continue à avancer. Je dis, mais c'est quoi le nom de cette rue? Le nom de la rue, c'était Chemin de l'Église. Je dis, ah bon? J'ai dit, deuxième petit clin d'œil. En fin de compte, on s'est retrouvé à négocier avec le doyenné de la paroisse, là où on est implanté, pour entendre se dire, au bout de X semaines, que l'évêché acceptait de nous céder gratuitement l'entièreté du complexe, à condition qu'on puisse rénover, mais qu'on ne devait même pas payer le loyer. Rien. Dieu a pourvu à ce besoin. Quand Dieu donne la vision, les amis, il donne la provision qui l'accompagne. On a été vraiment au bénéfice de cette bénédiction qui répondait ici à un besoin, certes matériel, mais aussi financier. Et puis, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction, et là il y a un mot que moi j'ai mis en graphe, vous ne voyez pas sur le truc, mais en abondance. Ça veut dire que ce Dieu que nous servons, il a des écluses remplies de bénédictions qui n'attend qu'une chose, c'est de les ouvrir pour les déverser sur ceux qui marchent avec lui. Vous avez des projets, ben, Seigneur, bénis ces projets, mais apportons à la maison les trésors, toutes les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans la maison. Nous devons marcher avec foi. Et en marchant avec foi, nous allons nous rendre compte que Dieu est fidèle, que Dieu est présent et que Dieu y bénit. Le fait que Dieu se soit fait connaître aux hommes par Jésus nous fait rentrer dans une dimension d'amour qui est incalculable. Nous étions perdus, j'étais perdu personnellement, égaré. Il est venu sur cette terre pour que nous passions d'un statut de condamné à celui du racheté par son sacrifice à la croix. L'ardoise, elle est effacée. On parle plus de ce qui était passé. On est vraiment aujourd'hui des nouvelles créatures, des enfants de Dieu. J'ai été condamné, je deviens fils ou fille du Dieu vivant. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce sont des paroles qui sont attribuées à Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 23. Et celle-ci nous montre une fois de plus ô combien l'amour est la caractéristique principale de Dieu. Tout à l'heure, on parlait de compassion, de bienveillance, on a chanté ta bienveillance, mais toutes ces choses-là découlent en fait de cette caractéristique principale qu'est l'amour de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, l'amour de Dieu, il s'exprime de manière privilégiée dans la relation au peuple qu'il a choisi, avec lequel il a fait alliance. Ce peuple est invité à aimer Dieu en retour, à le respecter, à l'adorer lui seul et à mettre en pratique tous ses commandements. Et puis, dans le Nouveau Testament, plus proche de nous, Jésus et Paul expriment l'essentiel des commandements de Dieu en deux phrases qui sont tirées dans cet testament aussi. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus donne aussi un commandement nouveau à ses disciples. Ayez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce qu'on trouve à la prochaine dia. Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. On ne peut pas se dire enfant de Dieu si on n'est pas capable d'aimer. Parce que l'amour est la caractéristique principale de Dieu. Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Alors, belle Église, et c'est une question que je me pose à moi aussi, est-ce que nous aimons? Est-ce que nous aimons vraiment? Le vraiment est important. Est-ce que nos attitudes, quelles qu'elles soient, reflètent tel l'amour de Dieu, y compris sur la route avec ma voiture quand on me fait une queue de poisson. C'est un petit détail, mais parfois, ça va tellement vite de glisser. Est-ce que mon attitude, elle est représentatrice de ce que c'est l'amour de Dieu? Il fait de l'amour le fondement de la communauté chrétienne et son témoignage par excellence. Moi, je sais que ce qui m'a touché, c'est l'amour. J'habitais à la rue du Bluet à Jumet. Il y avait une cellule de prière chez ma future belle-mère. Je ne savais pas que c'était encore ma belle-mère, enfin, qu'elle allait le devenir. Je vais à cette réunion de prière et je me rends compte qu'effectivement, il y a un truc qui est bizarre ici. Hein, comme quoi être bizarre, c'est bien. Il y a un truc qui est bizarre. Je me rends compte que je suis face à des gens qui aiment en toutes circonstances, en toute occasion, qui prie, et je me rends compte aussi qu'effectivement, il y a des réponses aux questions que je me pose. Elles répondent à un besoin, parce que le Seigneur est là pour répondre aussi à nos besoins. Ce que Dieu veut donc pour les êtres humains, c'est d'abord l'amour, un amour qui engage. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, c'est facile ça, mais avec des actes. Ces actes qui montrent que notre amour est vrai. Ce qu'on trouve dans 1 Jean 3, verset 18. Pour Jésus, cet amour s'étend au-delà du prochain et de l'étranger. Il va même jusqu'à l'ennemi. D'où parfois, ce n'est pas forcément évident. Dans Matthieu 5, 43, 48, on en parle. Ce n'est pas facile d'aimer son ennemi. Vous savez, moi j'ai vécu par des moments d'une douleur intense, même au sein même des églises, où je me suis fait massacrer, démonter de tous les côtés, injustement, où j'étais confronté à des chrétiens qui proclamaient des mensonges et qui ont commis du tort, vraiment, physiquement. Je me suis retrouvé pendant 2 ans en incapacité de travail. Hein, mais malgré tout, moi, ce qui m'a sauvé, c'est pas le fait d'avoir de l'amertume, c'est pas le fait d'être rancunier, c'est pas le fait de crier vengeance, c'est le fait de dire « Seigneur, comme toi tu l'as fait, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein, c'est de faire preuve d'amour. Et je peux vous dire que, quel que soit le fardeau qui est devant vous, si vous marchez avec amour, il sera tellement plus léger à porter, parce que le Seigneur, il portera avec nous, tout simplement. Dans l'autre diapositive, on voit d'autres passages. Colossiens 3, 14. « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Rien de plus à dire. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Dans mes combats, si je reste amour, Dieu sera avec moi. Il bénira. C'est quelque part l'enjeu. C'est pas qu'il fasse vengeance, mais c'est qu'il touche le cœur de celui qui me persécute, qu'il touche le cœur de celui qui me fait du tort, et que lui aussi, il est part à cette promesse extraordinaire de l'éternité avec nous. Il est venu pour chacun d'entre nous, quelle que soit l'importance de nos fardeaux. Il est venu pour nous en libérer. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4:2. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. 1 Corinthiens 10:24. Par conséquent, si on devait donner la caractéristique principale d'un disciple, elle serait complètement, mais complètement indissociable de celle qui définit Jésus, un serviteur, un berger qui aime et qui répond aux besoins de ce monde avec une dimension d'amour à toute épreuve et en toutes circonstances. En toutes circonstances. Vous savez, il n'est pas nécessaire de citer 50 000 références bibliques. Hein. Vous avez bien vu ici que l'amour, c'est l'ADN de Christ. C'est le projet de Dieu. Et dans notre époque contemporaine, il y a des enfants de Dieu, des disciples authentiques qui encore aujourd'hui sont à l'œuvre et qui ont compris que toutes ces choses-là et qui mettent en action vraiment des choses extraordinaires pour les autres. Alors moi, il y a un personnage, évidemment, il n'est plus de ce monde, mais moi qui a été un moteur vraiment, qui a été un déclencheur du fait de vouloir faire des choses pour les autres, et c'est l'abbé Pierre. En février 1954, je n'étais pas né. Moi, je suis né en 82, donc vous voyez, comme ça, je suis jeune. Hein. Et février 54, l'abbé Pierre a un témoignage puissant de cet exemple parfait du serviteur, du berger, qui aime et qui répond aux besoins avec une dimension d'amour en toute épreuve et en tout temps, en toutes circonstances. 1er février 1954, je vais vous lire juste une partie de son discours, et vous aurez compris. Voilà ce qu'il disait. Février 54, bon, pour le contexte, c'est un hiver extrêmement rude. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreurs, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Ils regorgent déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit à la porte de lieu où il y ait couverture, paille et soupe, et où on lit sous ce titre « Centre fraternel de dépannage ». Ces simples mots, et voilà ce qui était écrit, « Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir ». Ici, on t'aime. Waouh, quand même, quoi. Vous imaginez le contexte? Enfin, peut-être que certains s'en rappellent. Mais toi qui souffres, qui que tu sois, entre. Donc, qui que tu sois. Ça, c'est important. C'est pas juste pour des copains. Hein. C'est qui que tu sois. C'est pas juste pour ceux qui sentent bon. C'est qui que tu sois. Entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. Et c'est parce qu'on t'aime qu'on va vraiment t'aider, qu'on va répondre à tes besoins, qu'on va essayer de se sortir de la misère, qu'on va vraiment essayer de t'accompagner. Ça, c'est l'abbé Pierre. Mais il y en a des autres exemples. Un autre exemple, un peu plus loin dans l'histoire, mais ça me parle parce que quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'était à l'armée du salut, au poste de Jumet. Et William Booth, au 19e siècle, l'armée du salut est née au moment de la révolution industrielle, dans les bidonvilles de l'Est londonien. Ça, c'est le petit contexte. Avec son épouse Catherine, il réalise que les personnes en situation précaire ne fréquentent pas les églises. Il décide donc d'amener l'église dans la rue. Son principe, soulager aussi bien l'âme que la détresse matérielle. Et voilà un morceau de son discours. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que les enfants auront faim, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura une fille dans la rue, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura des victimes d'attentats aveugles, je me battrai. Tant qu'il y aura un fanatique qui blasphème le nom de Dieu, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur terre, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. C'est encore le cas aujourd'hui, hein. Ça s'est passé peut-être au 19e siècle. Aujourd'hui, le paysage, il n'a pas changé, hein. On a encore des gens dans la rue, on a encore des gens qui ont faim, on a encore des gens qui blasphèment le nom de Dieu, il y a encore des gens qui sont complètement paumés, qui ont besoin, et dont jumais, parce que moi j'y vis depuis que je suis né, quasiment, à part une petite parenthèse dans les autres communes pendant un temps, mais je veux dire, je peux vous dire que cette description-là, elle décrit complètement ma commune, hein. Il y a des gens qui aujourd'hui sont comme ça, qui vivent ça et qui ont besoin vraiment qu'on puisse aller vers eux et leur répondre à leurs besoins. Dans notre église, pas très loin ici, chemin de la Caillotte, hein, la Casa Nostra, on a organisé pour Pâques une petite fête pour les enfants, etc. Et donc j'ai pris le temps de distribuer des flyers, des invitations, etc. Et je suis allé, à l'allée verte ici plus loin, hein. Je dis, Seigneur, quel enjeu. Il y a tellement besoin ici. Les gens sont complètement égarés, dans la précarité. Je dis, si l'Église n'est pas ici, alors on n'a pas compris quel était le mandat que Dieu avait prévu pour chacun d'entre nous. L'Église, elle doit se rendre indispensable au bon fonctionnement de la société. Elle doit être ce parfum qui donne cette bonne odeur. Elle doit être ce parfum qui apporte quelque chose. Elle doit répondre à un besoin. L'Église, les chrétiens doivent se lever pour faire des choses. Hein, parce qu'on n'aime pas qu'en parole. On doit aimer aussi en action et en vérité. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Moi, quand j'ai ouvert une école, c'est pas que je voulais ouvrir une école, forcément, comme ça. Mais je me suis dit, regardez les infos. L'éducation, elle est massacrée de tous les côtés. Nos enfants sont dans ces écoles-là. Est-ce qu'on veut qu'ils soient formatés dans un système de pensée qui va quelque part non pas les former, mais les déformer ? C'est ça le truc, hein. C'est pas des ghettos, les écoles chrétiennes, hein. Parce qu'on pourrait dire, oui, parce que j'ai déjà entendu ça dans les églises, oui, mais c'est des ghettos. Non, 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 c'est pas des ghettos. C'est comme Martin Luther King l'a dit, ce sont des casernes à l'abri desquelles on veut former une génération qui va savoir répondre à l'appel de Dieu et qui va pouvoir dire non, je suis pas d'accord par rapport à certaines choses qu'on leur impose et qui auront à la fois une tête bien remplie et un cœur débordant. Mais débordant de quoi? De l'amour de Christ. C'est ça le truc. Hein, il n'y a pas assez d'écoles. On devrait vraiment se dresser. Il n'y a pas assez d'institutions chrétiennes où on peut répondre à des besoins. Suivre Christ, c'est un encouragement à aimer son prochain, peu importe sa condition. Nous sommes appelés à être des serviteurs, des bergers qui aiment et qui répondent aux besoins de ce monde avec une dimension d'amour, à toute épreuve et en toutes circonstances. Dans Matthieu 5, voilà ce qui est écrit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, c'est certain qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, d'accord ? Mais le fait d'appartenir à Christ nous encourage à rentrer dans cette dimension d'agir pour l'autre. Notre attitude, elle doit interpeller. On doit montrer que Dieu est vivant. Nos familles, en premier lieu, nos quartiers, nos villes doivent briller de la présence de Dieu. Alors, c'est sûr, c'est pas facile. Il y a des enjeux. Parce que si Dieu existe, le diable aussi. Et que lui, ben forcément, il fait un projet de destruction massive de ce qu'on veut mettre en place pour Dieu. Pourquoi, à votre avis, les écoles sont aussi matraquées par des choses qui sont abominables? On parle de sexualité dès la maternelle, quand même. Alors, je vais être cru, mais on parle de choses comme la masturbation maternelle. On nous demande de parler de ça. Éducation à la sexualité dès les classes primaires. C'est dans les programmes. Ça va arriver. C'est en projet. Et quoi? On va laisser les choses se passer comme ça? C'est tellement compliqué de poser des fondements solides que Satan, il sait très bien. Il va attaquer là où c'est la fondation. Il va attaquer les églises. Il va attaquer les écoles. Hein, il va... Où Jésus était-il? Près des malades. Vous croyez qu'on peut parler de Jésus à l'hôpital? C'est compliqué maintenant. Hein, c'est compliqué. Moi, je peux vous le dire, j'expliquerai après, mais c'est compliqué d'être chrétien dans un lieu, pourtant hôpital catholique, de pouvoir annoncer l'évangile. Hein, parce que maintenant, c'est la neutralité. On ne peut plus. Et si on le fait, on te met dehors. Il y a quelques années de ça, moi, je suis allé dans un hôpital à Charleroi, Notre-Dame, et on avait offert des cadeaux aux enfants. Et on avait acheté des contes de Noël, il y avait de tout. Hein, il y avait le fameux conte de Noël Jésus né à Bethléem, et puis il y avait aussi des contes de Noël un peu plus féeriques, on va dire. Et voilà qu'on offre un cadeau qui parle de la naissance de Jésus à un enfant d'origine musulmane. Mais bon, moi, le cadeau est emballé, donc je n'ai pas vu. Voilà. Et quand bien même, j'aurais quand même offert. Et vous savez qu'on nous a mis dehors de l'hôpital parce qu'on avait offert un cadeau chrétien dans un hôpital catholique. On ne pouvait plus aller à cet hôpital-là. Et aujourd'hui encore, quand on voit mon nom apparaître, on dit « Non, ils vont parler de Jésus. » C'est un hôpital catholique. On ne peut plus. C'est plus facile. C'est compliqué. Parce qu'on sait très bien que Jésus, là où il allait, mais s'il était aujourd'hui, enfin il est présent en esprit avec nous, mais si physiquement il était là, à Charleroi, à Jumet, il serait où Jésus? Il serait vers les gens de mauvaise vie, il serait dans les hôpitaux, voir les malades, il prierait pour eux, etc. Il y a un enjeu, l'adversaire le sait aussi. Mais il y a une belle citation qui dit que Dieu revendique chaque centimètre carré, chaque millième de seconde de nos vies, le diable fait pareil. Il fait pareil. Alors, est-ce que nous avons conscience que nous sommes lumière? Est-ce que nous avons conscience que nous devons briller? Est-ce que nous savons que nous devons éclairer autour de nous? Les autres ne doivent pas briller à notre place. Hein. Ils doivent briller, mais moi aussi, je dois briller. Je ne dois pas dépendre de la lumière des autres. Je dois vraiment, moi aussi, agir. Parce que j'ai aussi une surface autour de moi. Mes enfants, ils doivent me voir briller. Mon plus grand mandat, quelque part, c'est pas d'être directeur d'école, c'est pas d'être là devant vous en train de parler. Mon plus grand mandat, c'est de pouvoir amener mes propres enfants à l'évangile. Parce que c'est ce que Dieu me demande en premier. Et qui convient même. Et si je le fais pas, ben, je serai considéré comme un insensé. Moi, je veux que mes enfants viennent à Christ. Alors, c'est pas facile d'avoir des adolescents. Ben, c'est pas facile pour les adolescents d'avoir des parents aussi. Parce que c'est parfois compliqué. Je veux dire, parce qu'il y a des chocs générationnels qui sont là. Le monde, il évolue. Parfois, ils évoluent plus vite que nous dans certains domaines. C'est pas facile. Mais je peux vous dire que la vie est un combat. Parce que, pas parce que je suis devant vous que j'ai facile. Hein. Hier encore, je pleurais pour un de mes enfants hein, qui vit des combats compliqués à cause de mauvaises fréquentations qu'il a autour dans ses amitiés proches. Et ça va loin, hein. Ça peut amener les addictions, etc. C'est compliqué. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et celui qui guérissait les malades, il les guérit encore aujourd'hui. Celui qui sauvait les condamnés, il les condamne encore aujourd'hui. Et cet enfant, peut-être qui, moi, aujourd'hui, me fait peut-être souffrir et pleurer, je sais qu'un jour ou l'autre, il sera peut-être à ma place en train de faire ce que je suis en train de faire. Parce que Dieu l'aura racheté. Et il y a des promesses, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce que nous devons proclamer pour nos familles aussi. Alors, lorsque nous avons accepté Jésus dans notre cœur, nous avons reçu cette lumière. Nous avons reçu cette lumière pour la propager. Nous étions dans l'obscurité, il nous a donné cette lumière et il désire que nous puissions éclairer autour de nous. Arrêtons de nous cacher. N'attendons pas que les autres le fassent à notre place. On a chacun une mission. Si je ne le fais pas, peut-être que personne ne le fera. Alors parfois, il y a des roues de secours, mais parfois, il n'y en a pas. J'ai le témoignage d'une dame que je, que je, que que je connais bien, enfin, dans le passé, mais le Seigneur lui avait dit, va voir cette personne. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il dit, va voir cette personne. Et elle n'a pas écouté. Et cette personne-là, elle est décédée. Elle devait simplement aller lui annoncer l'évangile. Mais une tierce, enfin, pour une raison qu'on ne connaît pas, elle n'a pas été. Oh, c'est pas ça. Dieu l'aime, cette fille-là, etc. Il n'y a pas de problème. Elle n'est pas condamnée. Mais elle aurait pu, peut-être, gagner une âme, tout simplement. Une âme, c'est une perle de grand prix, les gars. C'est quelque chose. C'est du sérieux. Arrêtons de nous cacher. N'attendons pas que les autres le fassent à notre place. Quel que soit notre âge, Dieu nous utilise. Mais vraiment, moi je peux vous confesser, parce que je l'ai vécu personnellement, que le psaume 8 qui dit « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont dans la mamelle, il a confondu son adversaire », c'est vrai. Parce que moi, un de mes enfants, quand il est né, mon plus grand Zacharie, on le présentait à l'église. Et comme ici, moi je le prenais à bras, je monte sur la scène ici, hein, et lui, mais moi je suis comme ça, et lui regarde par là. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'au premier rang, il y avait une dame qui avait un voile sur la tête, une dame qui avait un cancer, qui n'avait plus un seul cheveu sur le crâne à cause de sa chimiothérapie. Et à la fin du culte, elle vient me voir. J'ai dit, ah bon, ok, avec une petite carte, pour, parce que c'était la présentation de Zacharie. Et sur la petite carte, elle avait écrit un petit mot, que j'oublierai jamais. C'était « Zacharie, quand tu m'as regardé et que tu m'as souri, j'ai un sourire de bébé qui a quoi, 6-7 mois, hein, j'ai su que j'allais guérir. » Bon, vous imaginez, un bébé de 6-7 mois a été utilisé par Dieu pour amener la guérison dans le cœur, ou peut-être physique, parce qu'après, je n'ai plus jamais vu cette personne-là, dans la vie de quelqu'un. Un bébé. Le Seigneur, il utilise qui il veut, quand il veut, quel que soit son âge. Moi, mon père a donné son cœur au Seigneur à travers la naissance d'un enfant. Parce qu'il savait que ma femme ne savait pas avoir d'enfant. Il savait qu'elle était stérile. Il ne pouvait pas concevoir que ça pouvait exister. Et puis, quand il a eu pour la première fois, la première seconde, son petit-fils dans les bras, il a dit, oula, là, il y a quelque chose qui me dépasse. Un miracle s'est produit. Et là, il a vu que Dieu agissait. Et à partir de ce jour-là, mon père a commencé à venir à l'église aussi. Hein, donc Dieu utilise qui il veut. Alors dans la version de Luc 8, 16, il est écrit « Afin que ceux qui entrent voient la lumière ». C'est-à-dire que toutes les personnes qui entrent dans ta vie, qui te connaissent, qui te rencontrent, qui te côtoient, qui vivent avec toi, qui travaillent avec toi, ils doivent voir ta lumière. Les personnes qui te connaissent doivent ressentir la grâce que tu dégages. Ils doivent reconnaître que tu es une personne exceptionnelle. Pas pour s'enorgueillir, hein, mais tout simplement parce que celui pour qui on marche, il est exceptionnel, tout simplement. Une personne spéciale, une personne bénie, une personne qui resplendit. Ça interpelle. Moi, je peux vous dire que quand j'entends des témoignages de conversion, en général, quasiment à chaque fois, c'est des gens qui ont été touchés par l'amour, par le témoignage de quelqu'un. Par la présence de Dieu dans leur vie, ils ont ressenti quelque chose de très fort, ou par l'expérience vécue avec un frère ou une sœur. Moi, j'ai été touché à travers une cellule de prière. Mon épouse, elle a été touchée toute petite. Elle allait à l'école dimanche, mais je pense qu'il y avait le frère là, qui est pasteur, M. Hamel, c'est ça ? Elle allait à Dompremis. Et toute petite. Et voilà, le Seigneur avait semé dans sa vie, etc. Et quand elle en a eu plus besoin, tout ce qui a été semé dans sa vie est ressorti. Un jour, elle était au 3e-4e étage d'un appartement, prête à sauter sur la petite fenêtre. Elle dit, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose pour moi aujourd'hui, je saute. Parce qu'elle vivait une situation tellement compliquée. Avec un divorce, etc. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Et au moment où elle dit, Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, je saute. Hein, le téléphone qui sonne. C'était sa maman. Il appelait pour dire, voilà Jenny, je voudrais t'appeler, enfin, je ressens que tu ne vas pas bien. Et elle dit à sa maman, mais c'est toi qui me dis ça, t'en as jamais voulu du Seigneur. Oui, si, je voulais juste te dire que j'avais donné mon cœur au Seigneur. Et elle l'a invitée à son baptême. Et quand elle est allée au baptême, en sachant que cette petite fille, qui est devenue une adulte maintenant, priait pour sa maman, quand elle s'est retrouvée à la rue de Wist, au baptême de sa maman, et que elle a entendu la voix de Dieu lui dire « Et maintenant que j'ai répondu à ta prière, qu'est-ce que tu vas faire ?» une belle claque spirituelle, boum, boum, boum. Elle est revenue au Seigneur et elle a avancé. Elle a avancé. Mais des combats aussi au jour le jour. Hein. Notre vie est un combat, mais on les vit avec le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, notre présence dans un endroit, elle doit apporter la joie, la paix, le réconfort, l'espoir, l'assurance, le bonheur, la vie. Elle doit rendre le sourire, vraiment. Nous permettre d'amener un plus dans la vie des gens. Parce que quelque part, on doit être un modèle. On doit être une source de bénédiction. Les autres doivent désirer recevoir ce que nous avons en nous. On doit être contagieux. Ça, c'est une bonne pandémie. C'est mieux que le Covid. On doit donner envie. Pas besoin de vaccin contre ça. Propageons, propageons, vraiment. Le Seigneur nous a éclairés pour que nous puissions éclairer les personnes qui nous entourent. Toute organisation dont je suis membre, dont vous êtes membre, dans mon quartier, dans mon pays, elle doit briller. Dans Matthieu 5, 16, il est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On doit propager qui il est, les amis. Propageons. Et vous savez quoi? C'est pour ça que j'ai créé mon association, que j'ai créé l'ASBL Un Temps pour Aimer, exclusivement destiné aux enfants. Hein, je vous expliquerai pourquoi après, mais c'est pour ça que moi je veux m'investir sans relâche pour une cause qui, enfin, dont, pour les enfants qui ont tellement besoin d'amour, vraiment. Certains sont malades, d'autres vivent la maltraitance, il y en a même qui sont abandonnés. J'en rencontre qui n'ont plus le goût à la vie, qui ont des pensées suicidaires à cause des tracas du quotidien. S'il y en a, ils ont des sacs de pierre sur le dos. Hein. Ça, je peux vous le dire, quel que soit leur âge. Il y a aussi des familles qui sont brisées à cause des circonstances de la vie qui sont parfois dévastatrices. Hein. Perdre un enfant, c'est compliqué. Il n'y a pas de mots pour définir ça. Je perds mes parents, je suis orphelin, mais je perds mon enfant, je suis quoi? Il n'y a pas de mots qui définissent tellement la douleur, elle est grande. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Il y en a qui ont des dettes à n'en plus finir, qui sont acculés financièrement, qui parfois sont amenés à tout vendre. Il y en a qui vivent le harcèlement, le cyberharcèlement. Actuellement, aujourd'hui, je fais une action pour une jeune fille de 17 ans qui souffre de cyberharcèlement. C'est dingue comme ça va loin. Mais vraiment, jusque dans son intimité, la personne arrive à la toucher, à l'atteindre. L'ASBL Un Temps pour Aimer, elle a choisi d'être une lumière dans la vie de ses familles. Un peu à l'image de l'abbé Pierre, quelque part, hein, qui criait « Toi qui souffres, qui que tu sois, appelle-moi, partage-moi ton combat, reprends espoir, car je vais t'aider, parce que je t'aime. » Le message qu'il a dit, je peux me le personnaliser à moi aussi. Je veux t'aider parce que je t'aime. Et vous savez, des constats en Belgique, il y en a des douloureux. Là, j'ai quelques chiffres que je vais juste vous énumérer comme ça. En 2017... En Fédération Money Bruxelles, c'est pas si loin que ça, hein, en sachant que c'est sûrement un peu plus maintenant, 6188 cas de maltraitance infantile ont été signalés auprès d'une autorité sociale ou médicale. La majorité des signalements concernent de la maltraitance intrafamiliale. En 2018, en Flandre, 8669 enfants ont été signalés à un centre de confiance. 4,2% de ces enfants avaient moins de 3 ans. 15,6% des filles subissent des violences physiques de la part d'adultes avant l'âge de 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire. En Belgique, une famille sur 10 compte un enfant à besoin de santé spécifique. Alors, ça va de la maladie ou handicap lourd, léger, voilà. Mais vous imaginez, sur 11 millions d'habitants, une famille sur 10 compte un enfant à besoin spécifique. En moyenne, chaque année en Belgique, j'ai pris vraiment pour la Belgique, pour qu'on sache dans quel contexte on vit, hein, 13 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués parmi 100 000 enfants âgés de moins de 15 ans. Cela signifie qu'en Belgique, 300 à 350 enfants développent chaque année une leucémie ou une tumeur maligne. Et à ces chiffres malheureux, d'autres peuvent se rajouter. Hein. La liste est longue. tristement longue. Je ne vous parle même pas des statistiques en matière de précarité, hein, parce qu'il y en a aussi qui touchent les enfants. On en a à côté de chez nous, hein, je veux dire, des situations comme celle-là. Alors pour terminer, je voudrais juste vous partager un dernier aspect de notre appel à suivre Jésus, dans sa dimension de serviteur qui aime en tout temps, en toutes circonstances, dans une dimension d'amour. Là, c'est une question. Jésus, parce que c'est lui qu'on doit suivre. Où allait-il? Et dans Luc 4, voilà ce qui est écrit. L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et acte 10 est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le Seigneur, aujourd'hui, il répondrait à tous ces besoins qui sont là, qui ont été énumérés, la maladie, la maltraitance, la précarité, et voilà, le deuil aussi, la difficulté, quelle qu'elle soit. Et nous, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons vraiment avoir cette dimension d'amour en tout temps et en toutes circonstances. On n'est pas sauvés par nos œuvres, je vous l'ai dit, mais nos œuvres découlent de notre volonté de marcher dans les pas de celui qui nous a aimés le premier. Moi, ce qui a été le déclencheur pour mon association, c'est un petit peu toutes ces choses-là. Dans mes 5 enfants, mon 4e garçon, Jérémy, il a souvent été hospitalisé quand il était petit. Il a fait une dizaine de bronchiolites en à peine un an, enfin, c'était compliqué. On avait un abonnement à l'hôpital de Jolimont, parce qu'il y avait des urgences pédiatriques, ou parfois on allait à Notre-Dame, c'était compliqué. On a même dit une fois à ma femme, dormez avec lui, parce qu'on ne sait pas s'il sera encore là au matin. C'était vraiment compliqué. Mais voilà, elle a fait confiance au Seigneur. Le Seigneur a donné, il pouvait reprendre. On était prêts à ça. Parce que parfois, le Seigneur, il reprend. On aimerait bien que tout le monde guérisse, mais parfois, il n'y a pas de guérison. C'est comme ça. Alors, on n'est pas là pour dire aux gens, ne prenez plus vos médicaments. Hein. Je dis, on est là, je dis, voilà, on va prier pour vous. Et si Dieu tient dans sa volonté, ben voilà, ok, il y aura quelque chose qui se passera. Mais je veux dire, le plus important, c'est que l'âme soit sauvée, que le cœur soit sauvé. Et puis nous, quelque part, c'est ce que je dis souvent à ceux avec qui je travaille, on a une vision qui va jusqu'à l'horizon. On ne sait pas ce qui se passe après. Hein. Et le plan de Dieu, ben voilà, lui, il le connaît de manière, enfin, du début à son accomplissement jusqu'à la fin, et bien au-delà. Nous sommes limités. Mais nous gardons quand même la foi et l'espoir de se dire, le Seigneur peut guérir. Le Seigneur peut faire quelque chose d'incroyable dans ces enfants-là. Et ça a été le cas pour Jérémy. Lui, heureusement, il s'en est sorti. Mais quand on était à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y avait une triste réalité. Premièrement, beaucoup d'enfants étaient tout seuls, parce que les parents ne savaient pas s'arrêter de travailler, parce qu'on a besoin de son emploi. Donc il y avait des infirmières que j'admire énormément et les éducatrices qui faisaient un rôle de substitution pendant quelques jours ou quelques semaines. Il n'y avait pas d'animation, à part de temps en temps des clowns merveilleux qui venaient faire sourire les enfants. Mais c'était vraiment limite. Moi, il est resté 15 jours, je les ai vus une fois. Donc c'était compliqué. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et quand on a créé l'association En Temps pour Aimer, ben, on a commencé par d'abord aller à la clinique universitaire Saint-Luc à Bruxelles. On a commencé à aller et on a offert des cadeaux aux enfants. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Il y a quelques photos qui suivent. Enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. Vous voyez qu'ici, on a deux gros nounours, deux grosses mascottes que je mets à votre disposition si vous avez un projet gratuitement, il n'y a pas de souci. Ça me fera plaisir de vous bénir. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on bénit les œuvres de Dieu aussi. Si vous avez des projets qui sont en lien avec l'enfance, quel qu'il soit, vous avez besoin d'être soutenu, on peut vous soutenir. On peut vous aider, vous faire du bien, hein, vous équiper aussi parfois de certaines choses. Il suffit juste d'en parler suffisamment tôt pour qu'on ait le temps de s'en retourner. Mais voilà, là c'est l'hôpital, deux gros nounours et des caddies remplis de cadeaux. On va dans tous les services, y compris les services compliqués. On va dans la pédiatrie générale, on va dans les services, les greffes, l'oncologie, les soins intensifs. Un beau témoignage des soins intensifs, c'est un jour on m'appelle et me dit « Écoute Julien, est-ce que tu pourrais pas venir faire une mission bonheur, ce qu'on appelle ça des missions bonheur, pour un petit garçon qui s'appelle Ézéchiel. Il a 6 ans, mais dans sa tête, il n'en a plus que 3. Parce que voilà, il a un handicap mental. Et en plus de ça, il a des gros problèmes de santé. Quand il est né, il n'avait pas de rein opérationnel. Donc il est, depuis sa naissance, sous dialyse. c'est compliqué. Je dis, ok, ça va, j'arrive. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Elle me dit, bon, il aime bien Mickey. Je dis, ça va, ok. Donc, j'arrive avec Mickey à l'hôpital. Hein. Je lui achète un petit Mickey interactif qui danse, qui chante, qui reconnaît certaines voix. Bon, soit. Et là, quand j'arrive à l'hôpital, à Bruxelles, voilà que l'éducatrice fait une triste mine. Elle me dit, écoute, on a un souci. Le gamin, il a fait des convulsions pendant la nuit et il est aux soins intensifs. Je dis, ok, ça va. Donc, ben, c'est pas grave, on va quand même venir le voir. Hein. Je veux dire, il est peut-être inconscient, mais nous, on sait qu'il est là. Donc, on va venir le voir. Et on laisse le cadeau qui est là pour la maman. On la prend dans nos bras parce qu'elle pleure dans les bras de nounours. Voilà, c'est vraiment très, très triste comme situation. Et quelques jours plus tard, après avoir murmuré dans l'oreille de sa maman qu'on allait prier pour le petit, l'éducatrice m'appelle. Écoute, Julien, il s'est passé un truc de dingue. Écoute, la maman, elle a déballé le cadeau. Et quand elle a fait parler le Mickey, le petit s'est réveillé. Le petit, il est revenu à lui. Je dis, ah bon, ben, même le Seigneur utilise Mickey, vous imaginez, pour pouvoir faire du bien aux enfants. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Vous avez plein de bénévoles qui peuvent passer. Voilà, on est dans les différents hôpitaux. On va sur Bruxelles, on va sur Namur, on va sur Gosselies, on va de temps en temps sur Liège, mais c'est plus rare. Même principe, on offre des cadeaux aux enfants. Alors, on réalise des rêves aussi pour des enfants qui vivent des moments difficiles. Hein, vous voyez, bah, Disneyland, ben voilà, on a des partenaires avec qui on travaille, qui nous permettent justement de réaliser un rêve, un peu comme Make-A-Wish quelque part, mais en version chrétienne. Je veux dire, où là, on peut vraiment mettre des étoiles plein les yeux. Et parfois, c'est des familles qui vivent tellement la galère que pour eux, aller à un week-end ou une semaine à la mer, c'est de l'ordre de l'impossible. Mais nous, on intervient, on leur offre ça, et ils vivent le meilleur moment de leur vie. On investit dans du matériel, hein, les aider dans leur scolarité, des tablettes, des PC, pour qu'ils aient un aménagement dans la classe. C'est vraiment assez, assez vaste comme attitude, intervention. Hein, on va au domicile aussi, on n'est pas qu'à l'hôpital. Parce que quand on va à l'hôpital, ben, on rencontre des situations compliquées. Et comme à l'hôpital, je vous ai dit tout à l'heure, parler de Jésus, c'est compliqué. Nous, à part leur dire qu'on pense à eux et qu'on leur partage cet amour qui est dans notre cœur, c'est compliqué d'aller plus loin. Mais par contre, on leur laisse notre petite carte que j'ai ici, je peux vous en donner à vous aussi. Et sur ces petites cartes, il y a nos coordonnées. Et en général, ils nous envoient un petit message pour certains. Et là, on peut franchement leur partager l'amour de Dieu, être beaucoup plus dans le témoignage. Et quand on va à domicile, là, c'est sûr qu'on a une liberté totale. Et voilà. On gâte, on fait du bien au corps, on fait du bien au cœur et on fait du bien à l'âme aussi. Voilà, domicile, un petit garçon. Voilà, c'est des bons moments. Voilà, un jeune qui souffre d'un handicap, etc. On est allé lui faire une petite surprise, on l'a gâté. Enfin, c'était vraiment sympa. On implique les églises locales aussi. Hein, donc si un jour vous avez à cœur de faire quelque chose comme ça, à l'hôpital de Gosselies, il n'y a pas de souci, on peut collaborer. Là, c'était les jeunes de l'église de Halle, hein, c'était à l'hôpital des enfants El Fabiola. Le thème, c'était les pirates. On est arrivé avec des trésors qu'on a voulu partager avec l'équipage de l'hôpital. C'était un petit peu l'idée. Et on a fait bien une centaine d'heureux hein, ce jour-là. Donc voilà. Ah, vous voyez, avant à gauche, il y avait une autre diapositive. Ça, c'est la banque alimentaire. Enfin, avant celle-là, c'était la banque alimentaire. Enfin, c'est pas grave si on ne voit plus, mais on soutient, quand je vous dis qu'on soutient les églises locales, ben, forcément aussi, dans les banques alimentaires, parfois, il y a des enfants, il y a des familles qui ont des enfants, qui ont besoin d'être aidés. Donc, on avait investi dans des tas de collations, des petits jus pour les enfants, pour pouvoir aller avec quelque chose à se mettre sous la dent pour aller à l'école. Donc, c'est des missions bonheur au sens large. Voilà, voilà. Voilà, bon, l'équipe tout ours, hein, le mâle et la femelle. Donc, non, c'est pour lui. Voilà, on va à domicile, on offre des cadeaux, voilà, c'est un peu le même principe. On a des stands qui sont parfois présents dans différents événements aussi. Là, c'était à l'entrée d'un carrefour, hein, du côté de Soigny, je pense. Où là, on avait un stand, c'était à l'approche de Pâques. On disait, voilà, si vous avez à cœur de bénir des enfants, vous pouvez nous acheter un paquet d'œufs en chocolat et nous, on lui offrira de votre part. Hein, on a eu près de 100 kilos d'œufs en chocolat qu'on a pu envoyer dans des centres pour des enfants passés par le juge, hein, qui ont été vraiment contents de les recevoir. Bon, on n'a pas payé le dentiste après, mais voilà, c'était comme ça. Voilà. On a été voir des personnes âgées aussi. Hein. On a été dans des homes, parce que bon, voilà, dans les homes, on a souvent des grands enfants aussi qui s'y trouvent. Hein. Et là, ben, ça a permis justement d'apporter quelque chose. Et là, on a impliqué les enfants des écoles avec lesquelles on collaborait. qui vient avec nous, bricolage avec les personnes âgées. Nous, on offrait des cadeaux, c'était des petites peluches, des petits chiens. Et c'était mignon à voir parce que pour certains, le petit chien était réel. Hein. C'était avec bon, l'Alzheimer, tout le bazar. Mais il dit, oh, mon petit chien, j'en rêvais. Ben, il dit, voilà, il avait son petit chien, il était content. Voilà. Donc là, en oncologie, hein, on fait des câlins aux enfants, hein, évidemment. En sachant qu'une mascotte qui va en oncologie n'ira pas ailleurs après. Ou inversement, si elle était ailleurs, on n'ira pas en oncologie. Parce que pour les microbes, c'est compliqué. Là, vous voyez, ce n'est pas une photo à nous, mais c'était pour vous montrer que la maltraitance, elle est fort répandue. Il y a quelques temps de ça, vous voyez les poupées qui sont là. C'est des poupées qu'on nous avait demandé d'acheter. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi on me demandait 13 poupées. Bon, je dis, OK, ça va. En fait, c'était pour des enfants, des petites filles entre 7 et 12 ans qui avaient été violées. Et c'était pour leur réapprendre à cajoler, hein, parce qu'elles étaient complètement brisées. Et donc, on a été approvisionné aussi l'institution en cadeau pour leur apporter un petit moment de bonheur. Voilà. Quand il y a eu les sinistrés, hein, du côté de Liège, là aussi, il y a des écoles qui ont été rasées. On a offert le matériel de rentrée des classes pour qu'ils puissent commencer l'année en étant, je veux dire, en tout cas, un minimum approvisionné et équipé. Voilà. Voilà, voilà, c'est la même chose. OK, des cadeaux. Enfin, je ne vais pas vous montrer plus de choses, le temps passe. Voilà, des missions bonheur à domicile. Hein. Voilà, là aussi. Voilà, petite fille qui souffre de handicap, on a amené du matériel adapté pour qu'elle puisse s'épanouir. Parce que quand on a une petite fille qui ne sait pas tenir une cuillère, par exemple, ou un petit enfant qui n'a pas de pouce, ben, ça peut paraître bête, mais il faut des ustensiles adaptés. Hein, ben, toutes ces choses-là, on peut aussi intervenir. Voilà. Animation dans les hôpitaux, etc., etc. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Alors ici, maintenant, je vais juste vous partager peut-être une vidéo d'un truc qu'on a fait. Je ne sais pas si tu vois celle où on a une maman qui parle avec son enfant. Les autres, ce n'est peut-être pas nécessaire, hein, parce que le temps avance. Mais je crois que c'est la troisième, je pense, ou dans celle que je t'avais envoyée. Voilà, là vous allez avoir le témoignage, parce que, comme ça vous verrez que ce que je vous raconte c'est pas du pipeau, parce que bon voilà, on n'est pas des menteurs dans ce qu'on dit. Là vous avez le témoignage de ce qu'une maman dit, qui n'est pas une famille chrétienne, mais qui maintenant vient à l'église de temps en temps avec nous. Hein, donc il y a du fruit quand même, voilà.
Bonsoir, je voulais remercier la SBL Un Temps pour Aimer qui depuis 4 ans maintenant nous suit dans l'évolution de la maladie de Joël qui est atteint d'une neurofibromatose type 2. La première opération lui a laissé pas mal de séquelles. Nounours a toujours été là pour venir nous rendre visite à l'hôpital, rendre visite à la maison avec des cadeaux fabuleux, style deux joueurs de basket de l'équipe nationale belges qui sont venus nous rendre visite. Une année quasi complète de matchs qu'on a pu voir grâce à Nounours. Et aussi, ben, toujours son soutien, toujours nous demander si Joël, comment allait Joël, comment ça évoluait, toujours prendre des nouvelles et voilà. Et on est infiniment reconnaissant de tout ce que la SBL a pu faire pour nous et fera encore, parce que voilà, c'est pas fini, mais Nounours est toujours là, et on lui fait des gros bisous, et on vous dit un énorme merci, 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 merci.
Merci.
Voilà. Alors, ça c'est un exemple parmi des centaines d'autres, mais voilà, on veut vraiment répondre à des besoins, parce que parfois les familles sont complètement, voilà, démunies, hein, par rapport aux circonstances. Donc à ça, on a pu aussi une fois envoyer un enfant rencontrer sa célébrité préférée, c'était Jean-Luc Reichmann, un petit gamin de 8 ans, à l'émission des 12 coups de midi. Là, voilà, on l'a fait, ça va aussi bien l'emmener faire un séjour quelque part, rencontrer son joueur de foot préféré. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut faire, si ce n'est que voilà, ces choses-là ne sont que des moyens que nous avons pour pouvoir après leur partager l'amour de Dieu. Voilà, tout simplement. Si vous avez besoin d'être soutenu dans votre église par rapport à des projets en lien avec l'enfance, vous pouvez toujours nous les partager. Moi, je viens dans les églises, non pas forcément pour dire il faut absolument nous aider, enfin, si c'est important aussi, parce que les besoins sont quand même énormes. Pour avoir une idée, en 2022, C'est 85 000 euros qui a été investi par l'association pour différentes missions, hein, notamment celles qui sont là et tant d'autres. Mais on a aussi aidé les églises locales, hein, parce que voilà, il y a des besoins aussi, il y a des familles en difficulté. Si vous connaissez autour de vous des gens qui ont besoin d'être aidés, des enfants qui sont malades ou qui ont besoin d'aménagement, on est là aussi pour pouvoir dire on existe, on est prêt à les aider. Bon, il faut un petit peu de temps pour les mettre les choses en place, mais on est prêt à répondre à ces besoins. Et alors aussi, et surtout, c'est ça le plus important, avoir des équipiers dans la prière qui puissent prier pour ce qu'on fait. Parce que voilà, moi je dis, Jésus, il guérissait les malades, vraiment. Et je veux vraiment croire que cette puissance qui était là, elle est encore là aujourd'hui. Et que ben, si on peut être un instrument de guérison dans les cœurs et dans les corps, ben, ça sera une opération gagnante. Voilà. Merci à vous pour l'accueil et que le Seigneur vous bénisse.